Radio Okapi.
C'est avec vous, Jocelyne Moussaoupondé.
Garantir une meilleure traçabilité des transactions financières liées aux procédures judiciaires, c'est le but de la bancarisation des frais de justice lancée hier à Kinshasa par le ministre de la Justice. 424 millions de dollars, c'est l'assistance supplémentaire du gouvernement américain à travers USAID, annonce faite hier lundi à Kinshasa en marge de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année. L'invité de la rédaction ce matin, c'est Benjamin Toirambe, secrétaire général à l'environnement sur la politique forestière. Avec lui, nous parlerons de l'atelier de planification de la politique forestière nationale en RDC qu'organise le gouvernement depuis hier lundi. Bonjour à tous. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux lance officiellement l'opération de bancarisation des frais de justice en vue non seulement de renforcer la transparence et l'efficacité financière, mais aussi garantir une meilleure traçabilité des transactions financières liées aux procédures judiciaires. Ce lancement s'est passé hier lundi au sein du ministère de la Justice. C'était devant les magistrats, greffiers, certaines autorités et responsables de l'Arobanque. Dans son allocution, le ministre a expliqué le bien fondé de cette opération et a mis en garde les magistrats, greffiers et autres auxiliaires de la justice qui tenteraient de s'opposer à cette opération. On écoute Constant Mutamba dans cet extrait proposé par Jeff Ngoy.
Nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Comme vous le savez, avant moi, il y avait une confusion à ce sujet. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et redevances. C'est pourquoi nous avons été scandalisés par le rapport de la Cour des comptes faisant état des détournements de plusieurs centaines de milliers de dollars perçus à l'initiative de certains greffiers. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention, attirer l'attention du peuple congolais, des justiciables, que désormais, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçues par les agents de police judiciaire.
Selon le garde des Sceaux, près de 240 actes générateurs de recettes sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Le droit des censures d'une chanson, par exemple, ou d'un spectacle commençant par le long métrage d'un film revient à 30 dollars, le court métrage d'un film à 20 dollars. Pour les concerts live enregistrés, c'est à 50 dollars. Les téléréalités, karaoké ainsi que les films virtuels reviennent à 20 dollars. Tous ces frais et tant d'autres échappés au trésor public. Pendant ce temps, en Nord-Kivu, le réseau pour les droits de l'homme, REDO, une organisation de défense des droits humains basée à Butembo, exhorte le ministre de la Justice à créer une commission chargée de désengorger les prisons de Beni et Butembo. Ces établissements, confrontés à une surpopulation carcérale, ont enregistré plusieurs décès au cours des derniers mois. Selon Maître Muindo Ouassivinua, son coordonnateur, cette commission permettrait de libérer certains détenus. Il s'exprime au téléphone avec Martial Papimukeba.
Les REDO s'allient l'initiative du ministre d'État, ministre de la Justice, y garde des Sceaux, avec le souci de désengorger les maisons pénitentiaires. Nous sollicitons qu'il puisse faire autant dans d'autres provinces, avec un accent particulier au Grand Nord Kivu, où les prisons de Butembo et Beni sont très surpeuplées. Nous aurions voulu qu'il puisse constituer une commission d'enquête qui pourra faire des descentes dans différentes prisons afin de détecter ces prisonniers qui pouvaient bénéficier d'une liberté.
En attendant, 56 détenus sont morts à la prison Kangwangura de Butembo entre janvier et août 2024. Ce chiffre a été révélé dans un rapport publié samedi par Maître Sekera Kasereka, un chercheur et défenseur judiciaire local. Dans un rapport publié samedi à Butembo, ces chercheurs pointent du doigt la surpopulation carcérale due principalement au déferlement irrégulier du parquet militaire comme cause majeure de ces décès. Conçue pour 180 places, la prison prison urbaine de Butembo abrite actuellement 1341 détenus. Selon ces chercheurs, la majorité de ces détenus sont incarcérés par l'auditorat militaire, souvent sans respecter les procédures légales. Nous n'avons pas eu la réaction de l'auditorat militaire garnison de Butembo. À Matadi, dans le Congo central, des instruments musicaux saisis dans les débits de boissons de la commune d'Nzanza et ses environs. Plusieurs personnes accusées de déranger la quiétude de la population arrêtée lors de la descente sur terrain de Dominique Nkodi Ambété, maire de Matadi, appuyé par la police. C'était dans la nuit de dimanche à hier lundi. À travers cette opération, le maire voulait s'assurer que la décision relative à la lutte contre les nuisances sonores et tapage nocturne est respectée. Je l'ai dit dans les titres, le gouvernement américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement, USAID, vient d'allouer une assistance supplémentaire de 424 millions de dollars. Cette nouvelle a été communiquée hier lundi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. C'était en marge de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année. Cette assistance va permettre à la RDC de faire face aux drames humanitaires et sanitaires en cours dans le pays. Des détails avec Askin Zigbiataïro.
Les bénéficiaires de cette assistance sont plus les personnes qui ont des besoins humanitaires persistants en raison du conflit et des déplacements, a confirmé Emaden, chargé d'assistance humanitaire de l'USAID. Une partie de cette somme, 10 millions de dollars, sera utilisée pour répondre à l'épidémie actuelle de variole simienne, Mpox, qui touche la RDC dans plusieurs provinces. L'USAID fait également don de 50 000 vaccins pour lutter contre cette épidémie, Mpox. D'ailleurs, devant la presse congolaise, Emaden invite ses différents partenaires à soutenir le travail d'assistance humanitaire en vue de sauver des vies humaines.
Il y a beaucoup de besoins pour augmenter l'impact. Nous demandons que le gouvernement aussi prenne sa part en charge et augmente le financement sur l'assistance humanitaire, même si ce n'est pas une question de cash qui nous aide avec les terrains. Nous avons besoin de beaucoup plus de terrains pour les camps de déplacés et assurer que les déplacés vivent en dignité.
Sachez que d'après la chef d'équipe 1 de l'USAID, le total de l'assistance humanitaire des États-Unis en RDC pour l'exercice fiscal 2024 s'élève à plus de 838 millions de dollars.
La Journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée dans un contexte particulier des crises multiformes qui secouent le Nord Kivu notamment, avec plus de 2,4 millions de déplacés, conséquence directe de la guerre déclenchée par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Les humanitaires disent devoir en même temps faire face aux épidémies. Ces agents humanitaires l'ont dit lors des activités portes ouvertes qui cadrent avec la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Bernard Danyangi nous fait le point.
Face à ces 2,4 millions de personnes déplacées, le choléra, qui affecte déjà plus de 15 000 personnes dans les sites déplacés et maintenant 60 cas confirmés de Mpox, le Nord Kivu, est au centre d'une crise humanitaire sans précédent. La chef du sous-bureau de Ocha au Nord Kivu estime qu'il faudrait une réelle volonté politique pour amorcer une désescalade et améliorer l'accès aux nécessiteux. Madame, merci Manyala.
Avec les trêves, mais aussi les saisons de fer, il y a les diminutions dans les affrontements. Mais c'est pas suffisant. C'est pas tout le monde qui respecte ça aussi. C'est pour continuer à appeler pour l'engagement politique, pour voir vraiment il y a les grands résultats.
Le gouvernement militaire promet à cette occasion tout son accompagnement aux acteurs humanitaires, ainsi qu'aux millions de personnes déplacées ayant le seul souci de retourner chez eux. Général-major Peter Chirmwami.
Tout en réitérant notre engagement à veiller sur la sécurité de toutes les personnes et leurs biens, je réaffirme la collaboration entre les gouvernements provinciaux pour rendre un appui efficace aux milliers de déplacés et communautés affectées qui n'ont qu'un seul rêve du retour dans leurs milieux respectifs.
À Goma, une série d'activités est prévue durant ces deux jours pour valoriser le travail des acteurs humanitaires dans la province. Goma, Bernard Denyangi, Radio Okapi.
La Journée mondiale de l'aide humanitaire vise à sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires, mais aussi à renforcer le soutien pour l'accès à l'aide et à promouvoir des actions de solidarité envers les populations vulnérables. À cette occasion, Radio Okapi s'est penché sur la situation des déplacés dans la ville de Beni. Des milliers de personnes vivent majoritairement dans des familles d'accueil. Grévis Salomon s'est rendu sur l'un des rares sites des déplacés situés dans le quartier Kanzulinzuli. À Beni. Voici son reportage.
Ce site abrite au moins 15 ménages et a fui la sécurité dans les territoires de Béni et la province voisine de l'Ituri. Depuis plus d'un an, ils vivent dans 12 abris construits à plage et tôle par une organisation humanitaire. Bien qu'ils soient à l'abri des intempéries, ces déplacés affirment n'avoir reçu aucune assistance humanitaire depuis plus de 10 mois. Bambou Sahani décrit leur souffrance.
Nous vivons ici dans la souffrance. Lorsque nous sommes arrivés, on nous avait apporté de l'assistance, mais depuis lors, plus rien. Nous sommes en proie à la famine. Nous avons du mal à obtenir de médicaments en cas de maladie. Nos enfants doivent aller à l'école. La rentrée approche, mais nous ne savons toujours pas comment obtenir leur fourniture scolaire.
Robert Oudaga, président de ce site, appelle à une intervention urgente du gouvernement pour alléger les conditions de vie déplorables auxquelles ils sont confrontés.
Les gens vivent très difficilement ici. Ici, il n'y a même pas de l'eau. L'eau que les gens sont en train d'utiliser, c'est cette eau qu'on appelle l'eau de Kiloqua. Et c'est l'eau dans laquelle les gens sont en train même de vider les WC. Et c'est là où les mamans sont en train même de lessiver les vêtements. Alors, on ne sait pas si qu'est-ce que le gouvernement pense de nous. Nous demandons d'abord la paix.
Béni, Grévy Salomou, Radio Okapi.
Sachez que 6 travailleurs humanitaires ont été tués et 11 enlevés entre janvier et juin de cette année, avec plus de 200 incidents ayant directement ciblé les humanitaires sur le terrain. Pour Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, cette année, la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire revêt une signification particulière dans le contexte de la RDC en raison de l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires. Il rappelle notamment la mort tragique des deux humanitaires tués le 30 juin dernier lors de l'incendie de leur convoi par des groupes des jeunes armés à Boutembo. Suivez Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, dans cet extrait proposé par Élisée Chicota.
Au cours des dernières semaines, nous avons également été témoins d'une flambée inquiétante d'attaques de groupes armés contre les populations civiles dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Entre janvier et juillet, par exemple, plus de 630 civils ont été tragiquement tués dans les territoires de Mambasa et Irumu en Ituri et dans les territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu. Malgré la gravité de ces tueries et de ces souffrances, le monde ne s'est pas suffisamment indigné par cette situation catastrophique. Cette absence d'indignation collective, cette tolérance questionne profondément notre humanité et notre capacité à prévenir et à agir contre la violence systématique qui décime des vies innocentes en République démocratique du Congo. Cette année, le thème choisi pour la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire est « Agir pour l'humanité ». Et c'est un appel à l'action. Nous devons agir pour protéger les populations civiles. Nous devons agir pour protéger les humanitaires contre la violence. Nous devons agir contre l'impunité des auteurs d'attaques contre les humanitaires et contre les civils. Nous devons agir pour la paix. Lorsque nous échouons à protéger les civils et les humanitaires, nous mettons en péril les fondamentaux des droits humains, notamment l'accès à l'aide humanitaire aux personnes en situation de détresse.
Avant l'actualité internationale, rendons-nous dans la province de l'Ituri où le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire lance les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans les 5 territoires de cette province. C'est en faveur de 18 000 ex-combattants et jeunes à risque, appuyés par l'Organisation internationale de migration, OIM, grâce au financement de l'Union européenne. Ce projet prévoit notamment la construction des infrastructures communautaires. Selon les organisateurs, l'objectif est non seulement la réinsertion des ex combattants, mais aussi la cohabitation pacifique des communautés locales. Son lancement a eu lieu hier lundi à Tséré, dans la périphérie de Bounia. Aminata Moussaïdizi, reportage.
Ces projets prévoient entre autres la construction des marchés, des ponts et la réhabilitation de routes en utilisant des ex-combattants et jeunes à risque et certains membres des communautés comme main d'œuvre. 18 000 jeunes sont ciblés par ces programmes. À l'occasion du lancement, le représentant du gouverneur a posé la première pierre de la construction d'un marché communautaire à Tséré, à une dizaine de kilomètres de Bounia. Selon l'OIM, ces projets visent la réduction des violences et la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Le chef de l'OIM en Ituri, Michel Tia.
Les ouvrages sont essentiellement la construction du marché communautaire. Il y aura la réhabilitation de certains axes routiers, la construction d'ouvrages de franchissement et de ponts, et puis la construction d'une salle polyvalente. Les résultats attendus de ce projet-là, c'est essentiellement la cohésion sociale. Les ex-combattants et membres de communautés participent ensemble à ces activités.
Pour le chef de la chefferie de Baye Madirumu, ce projet contribue aussi au développement de son entité, David Bainduka.
C'est toutes les communautés qui sont engagées à faire ce travail. Le marché marchés, c'est pour tout le monde. Ça va encore nous aider à consolider notre relation qu'on avait auparavant. C'est vraiment une voie de sortie de cette crise.
Ce projet est accueilli avec joie par la majorité de la population de cette province qui aspire à une paix durable.
Actualité internationale.
Les 95 Libyens expulsés d'Afrique du Sud dimanche après leur arrestation le 26 juillet dernier étaient entrés dans le pays de manière illégale en faisant des fausses déclarations, en se faisant passer pour des étudiants. Ils sont arrivés à Benghazi dimanche. Selon les autorités sud-africaines, ils s'entraînaient dans un camp militaire secret dans la ville de White River, dans la région de Mpumalanga, frontalière du Mozambique et d'Eswatini en Libye. Tous les éléments semblent indiquer que ces Libyens qui suivaient une formation sécuritaire clandestine poussée appartenaient au camp de l'Est libyen dirigé par le maréchal Khalifa Haftar.
L'invité.
Le gouvernement organise du 19 au 23 août courant l'atelier de la planification de la politique forestière nationale en RDC. Invité de Radio Okapi, le secrétaire général à l'environnement explique que ce forum se propose d'emmener les forêts à contribuer au développement durable. Benjamin Toirambe est également d'avis qu'une bonne politique environnementale peut aider à la réduction de la pauvreté à travers le pays. Il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Benjamin Toirambe.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Le gouvernement organise l'atelier de la planification de la version préliminaire de la politique forestière. Quelle est selon vous l'importance de ces travaux?
Le législateur nous a donné un code forestier. Dans le préambule de ce code forestier, le législateur avait mentionné que nous devions faire un effort pour avoir une politique forestière. Imaginez-vous, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, il a fallu quand même faire un diagnostic avant qu'on puisse s'engager réel. Et ce diagnostic a été réalisé. Sur base de ce diagnostic, nous sommes ici pour que toutes les parties prenantes puissent contribuer, consolider ce diagnostic qui a été réalisé pour nous amener dans les schémas maintenant de l'élaboration de la politique forestière nationale.
Ce retard que le pays a connu est dû à quoi?
Il y a eu beaucoup de problèmes dans la marche. Il y a eu une ébauche qui a été réalisée par exemple par la FAO. Mais le problème est que quand on essayait d'avancer, il y avait toujours des accrochages. Vous voyez les enjeux dans nos pays, parfois nous avons difficile de décider seul. Même l'engagement que nous avions pris dans les codes forestiers, mais il y a toujours certaines parties qui veulent toujours que nous, les RDC, puissent rester avec ces problèmes. C'est-à-dire ils amènent parfois des moyens pour dire que nous allons aider les RDC à avoir une politique forestière. 3, 4, 5 ans par la suite, on n'a pas les documents avec nous. C'est-à-dire même nos partenaires parfois, ils jouent un double jeu.
Alors certains experts doutent encore d'une politique forestière efficace dans un pays comme la RDC où le taux de pauvreté a dépassé les CI. Qu'en dites-vous?
La pauvreté, c'est le grand moteur de la déforestation. Aujourd'hui, regardez seulement que nous sommes à Kinshasa. Allez de part et d'autre de la ville de Kinshasa, vous allez trouver que non, il y a une déforestation que tu ne peux pas croire. Pourquoi? Les pauvres qui sont au village, ils ont trouvé que non, pour que je puisse un peu bien vivre, il faut où? Dans la capitale. Mais pourquoi? Parce que notre pays a un taux de pauvreté plus élevé.
Alors quoi faire pour changer les fusils d'épaule?
Donc il faut que nous puissions travailler pour que nous puissions accompagner notre politique de changer les fusils d'épaule. Et c'est là où nous sommes engagés. Si nous voulons que notre gouvernement puisse réussir dans les mandats actuels du chef de l'État, nous sommes appelés à avoir une politique forestière.
Le gouvernement bénéficie-t-il de l'appui de certains partenaires?
Exactement, il bénéficie aujourd'hui, par exemple, nous avons CAFI, nous avons l'AFD qui nous accompagne. Donc tout ça, il vient en appui. Mais la politique, c'est la politique de la RDC. C'est pour dire que ce sont les partenaires de la RDC qui doivent se mettre ensemble comme nous sommes là pour élaborer notre politique.
Et quelle est l'étape suivante?
Quand nous allons valider notre diagnostic qui a été réalisé, alors maintenant, nous allons commencer le travail réellement d'élaboration de la politique. Les gens sont même sur le terrain pour commencer à collecter des informations.
Avez-vous un petit message à lancer d'abord aux experts, aux partenaires et puis à tous les Congolais lambda?
Le premier message aux participants et aux partenaires, que tout le monde s'engage. Il ne faut pas que nous puissions faire d'hypocrisie. Parce que demain, nous allons rentrer encore dans la même chose comme on a connu ça avant. Ça ne sera pas une bonne chose. Nous tous, nous voulons gérer durablement la forêt. Alors, comment vous amenez l'hypocrisie dans une place comme celle-ci? C'est-à-dire, vous n'êtes pas les bienvenus. Je demande à tout le monde de s'impliquer. Vous avez une idée quelque part? Amenez, nous sommes ici. Nous sommes au ministère de l'Environnement. L'essentiel pour nous est que nous puissions gérer durablement nos forêts pour que nous puissions bénéficier de cette forêt-là. C'est-à-dire que nous, nous sommes nés dans ce pays, pas ailleurs. Donc tout le monde doit venir avec les bonnes idées qu'il a pour contribuer à avoir une politique où le gouvernement, avec son administration, avec nos provinces, avec nos communautés, que nous puissions gérer durablement nos forêts et que ça puisse nous produire de revenus.
Actuellement, la contribution du secteur de la forêt est à quelle hauteur dans le budget national?
La contribution de nos forêts, c'est 0,00%. Un grand secteur. Vous voyez un peu, d'ailleurs, à tout moment, quand vous partez sur la grande route de Matadé, si vous voyez des grimes partir, quel est le bénéfice que nous tirons là-dedans? Raison pour laquelle nous sommes ici, pour avoir une politique avec des orientations claires qui amènent les secteurs des forêts à contribuer dans le budget de l'État.
Monsieur le secrétaire général, nous vous disons merci.
Ainsi prend fin ce journal coordonné par Pelé Kipela Mondo et mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Merci de l'avoir suivi.